Bonjour et bienvenue sur Raise by Moviskill, le podcast qui traite de la parité homme-femme dans la tech. Moviskill est un cabinet de recrutement spécialisé dans les profils R&D. Nous accompagnons les sociétés dans leur recrutement tech depuis 10 ans. Nous sommes partis d'un constat simple. Seulement 9% de nos placements sont des femmes et seulement 1% de ces placements sont sur des postes en C-level. Le projet Raise a pour but de mettre à disposition du contenu, des tables rondes, du coaching et plus, afin d'accompagner ces profils féminins à évoluer dans leur carrière. Darcy accueille au micro des acteurs du numérique pour parler de leur expérience, donner des tips et mettre en avant les bonnes pratiques en toute bienveillance. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Raise. Je suis aujourd'hui accompagnée de Camille, co-founder et managing director de Youmani, notre cabinet de recrutement dédié aux profils non techniques du digital. Hello Camille.
Hello à tous.
Aujourd'hui, nous accueillons aussi Anne Lebruchec, chief people officer de JobTeaser. Bonjour Anne.
Bonjour.
Comment allez-vous? Toutes les deux?
Super.
Génial. Ouais,
très bien aussi.
Eh bien, on va pouvoir commencer. Je te donne la main, Camille.
Effectivement, on commence par un petit icebreaker, histoire de détendre l'atmosphère. Trois questions, assez classiques finalement. Côté voyage, Anne, plutôt backpacking ou all-inclusive?
Backpacking, à fond.
Côté sport, salle de sport ou cours collectif?
On peut dire pas de sport du tout.
Oui, c'est autorisé. et le dernier, Uber Eats ou petit plat maison?
Petit plat maison.
Ça marche.
Ça marche. Alors là, on va passer du côté un peu plus sérieux des questions binaires. Télétravail ou vacances illimitées?
Télétravail.
Management technique ou manager coach?
Manager coach.
Inclusion ou diversité?
Inclusion.
Pas facile celle-là.
Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup Anne.
Du coup, pour commencer, peut-être Anne, peux-tu te présenter et nous expliquer rapidement voilà, quelles sont les principales étapes de ta carrière?
Ouais, avec plaisir. Ça fait 3 ans que je suis DRH de JobTeaser. J'ai toujours fait des ressources humaines toute ma vie. J'ai commencé, c'est assez marrant, chez Google, c'était mon premier job. Je faisais du recrutement. Et je faisais du recrutement uniquement de femmes. J'étais diversity recruiter, ce qu'on disait à l'époque dans les équipes. Et après, j'ai, au gré de la fonction RH, eu plein de postes, beaucoup dans des grands groupes, chez Bouygues, chez Canal, chez TF1, dans les médias, dans les telcos. Et un jour, j'ai décidé de partir en start-up, me lancer sur un poste de DRH toute seule, comme une grande. Et c'est là que j'ai rencontré JobTeaser. Et ça fait 3 ans maintenant que ça dure.
Parfait. Justement, en parlant de JobTeaser, qu'est-ce que fait JobTeaser? Qu'est-ce que c'est exactement comme produit?
Alors JobTeaser, on est leader sur le marché du recrutement et de l'orientation des jeunes talents en Europe. C'est-à-dire qu'on est une plateforme qui met en relation les jeunes étudiants au travers de leur école et de leur université avec des entreprises qui recherchent pour des postes en stage, en alternance ou pour un premier job. Et donc, on totalise au niveau de l'Europe une présence dans 25 pays avec nous 400 salariés de notre côté et on gère plus de 750 universités avec voilà, plusieurs millions d'étudiants qui transitent sur nos plateformes tous les ans.
Ok. Et du coup, toi, en tant que DRH, tu disais que tu avais décidé de prendre cette fonction-là au sein d'une start-up. Donc, concrètement, quelles sont tes missions au sein de la société? Et quelles sont les valeurs les plus fortes selon toi chez JobTeaser?
Ok. Alors déjà, c'est vrai que c'est particulier d'être DRH dans une entreprise dont les clients sont également des DRH. Mmh. C'est vraiment un petit effet miroir assez marrant. Les principales fonctions, elles sont finalement assez classiques comme sur un poste de DRH. Il y a depuis le recrutement, le onboarding de nos collaborateurs, toutes les activités liées à la rétention, la formation, l'inclusion des collaborateurs dans l'entreprise, les aspects légaux, la paye, la formation qui est un énorme sujet, la communication interne, le facility management et voilà, beaucoup de problématiques de recrutement transverses à tout ça, donc c'est assez complet finalement.
Oui, effectivement, c'est un poste qui est assez large. Et du coup, côté valeurs, quelles sont les valeurs chez JobTeaser qui te plaisent le plus?
Alors, déjà, chez JobTeaser, le sujet des valeurs, ça a été un sujet dont on s'est occupé quasiment depuis la création, parce qu'encore une fois, on est une boîte du secteur RH. Donc, c'est des questions qu'on se pose. On a fait le choix d'entreprise de finalement pas s'accorder sur des valeurs qui se résumeraient en 3 ou 4 mots que je pourrais vous pitcher comme ça en une minute. On a nos fondateurs qui ont fait tout le travail de rédiger un document qui fait plus de 20 pages, qu'on appelle en interne le Job Teaser Code, et qui est un peu l'ensemble de ce que nous on appelle des virtues, qui sont les comportements attendus chez nos collaborateurs et un peu comment on souhaite que nos collaborateurs interagissent les uns avec les autres. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce document. On peut, en tant que collaborateur, piocher certaines dimensions et d'autres être peut-être un peu moins fort. Donc on va trouver, on a des choses comme le RAFA Mindset. On appelle ça le RAFA Mindset, c'est le fait de jamais lâcher et d'aller jusqu'au bout des projets. On a la passion pour notre mission. On a la chance d'avoir une mission qui est très universelle, qui vise à aider les jeunes. On a beaucoup de choses autour de l'engagement, du fait de pas lâcher, de toujours viser l'excellence, toujours donner la priorité à son équipe versus des considérations plus individuelles. On a beaucoup de choses de ce type dans ce document. On a beaucoup de feedback aussi. C'est une valeur hyper clé chez nous. Il n'y a pas beaucoup de process RH qui ne passent pas par un exercice de feedback ou de 360 en amont. Donc, voilà.
Ok, très clair.
Peux-tu nous donner le pourcentage de femmes dans les équipes techniques ?
Alors, nos équipes techniques aujourd'hui, qui comprennent du coup technique au sens large, la tech, le produit, la data, l'inno, aujourd'hui, on est à 30% de femmes dans nos structures pour une équipe qui fait à peu près 125-130 personnes. Donc, c'est un peu moins sur la partie dev, tech pure, beaucoup, beaucoup plus sur le produit. Ou sur le produit et la data, on est à 50-50 parce que, encore une fois, notre produit sert autant de jeunes femmes étudiantes que de jeunes hommes étudiants. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, 30 au global.
Ok. Après, c'est vrai que, comme tu nous expliquais au début de ta carrière, c'est un sujet qui a été un sujet très, très tôt pour toi. Donc, c'est vrai que ne pas t'interviewer sur ce podcast, ça aurait été presque impensable parce que c'est un sujet d'actualité. Et lors de la préparation un peu de cet épisode, tu nous avais notamment parlé de la formation que vous avez mis en place pour les collaborateurs qui participent au recrutement, ce Job Teaser. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cadre de formation que vous avez en interne?
Alors encore une fois, nous on est une boîte sur le secteur du recrutement, donc c'est toujours un sujet auquel on a apporté beaucoup d'attention. C'est vrai qu'on a structuré un process de recrutement chez nous qui est basé sur le livre qui s'appelle The Who, et duquel on a en fait traduit ce qui nous intéressait pour en faire les étapes et les guidelines de notre process recrutement. Donc notre process, il est assez élaboré, ce qui fait que on ne peut pas faire intégrer des collaborateurs dans nos process de recrutement sans les y avoir formés. Donc, c'est un préalable chez nous. Dès qu'on est en position de faire passer un entretien ou de recruter soi-même pour son équipe, c'est obligatoire d'avoir suivi la formation recrutement qu'on dispense en interne. Donc, je dirais, chez nous, il y a les deux tiers de nos collaborateurs qui ont été formés à cette formation. C'est une formation courte, ça dure 2 à 3 heures, et ça permet de balayer l'intégralité de nos process, et aussi surtout, la clé de notre process, c'est qu'il est objectif, cadré, fondé sur, par exemple, l'exercice d'une scorecard qu'on fait préalablement à la publication de n'importe quelle offre, etc. C'est un process qui est uniquement centré sur les compétences et les attendus d'un collaborateur sur son poste. Et donc, on explique aussi pas mal à nos collaborateurs comment on évite d'avoir un jugement biaisé sur un candidat, comment on évite de se laisser parfois manipuler par des idées reçues ou des biais qu'on pourrait avoir, et comment on essaie de mettre beaucoup d'objectivité dans nos process de recrutement et dans nos choix. Donc, c'est 2 heures pour tout le monde à suivre impérativement.
Ok. Vous avez mis combien de temps à la créer, en fait, cette formation ? J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de contenu entre les biais cognitifs, savoir être faire. J'ai vraiment l'impression que c'est une formation qui est assez, comment dire, qui peut être très poussée, mais vous la faites quand même en 2 heures. Comment ça se passe ?
Ouais, c'est toujours un choix à faire entre l'efficacité qu'on pourrait avoir et le temps qui est nécessaire pour quand même être formé. Au-delà de la formation qui dure 2 heures, je pense que l'équipe talent que je pilote elle a une responsabilité qui est énorme, qui est de faire en sorte que tous nos process de recrutement, même si un manager a oublié quelque chose qu'il était censé respecter de la formation, que sans arrêt ça lui soit rappelé et qu'on lui réexplique à chaque fois pourquoi on a décidé de procéder comme ça dans nos process de recrutement. Donc on a mis un petit peu de temps à la créer, mais surtout on l'a fait assez souvent évoluer. Mmh. On l'a fait évoluer quand on intègre de nouveaux pays, par exemple, et que du coup on va se heurter à des réalités de recrutement qui peuvent être différentes dans les pays nordiques, par exemple, que dans... Et donc à ce moment-là, on l'enrichit et on l'a fait pas mal évoluer. On a aussi finalement opté pour des modules un peu plus spécifiques. On a des petits modules d'une heure qu'on décline plus spécifiquement à certaines géographies, comme l'Allemagne, comme les Nordiques, parce qu'on a adapté certains aspects du process à des spécificités plus locales de recrutement.
C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que nous, en tant que cabinet, on voit beaucoup de nos partenaires qui ont cette difficulté-là. On a des bons recruteurs en interne, mais après, il faut véhiculer... en fait, c'est un métier, c'est une expertise pour le coup, le recrutement, et le transmettre au manager pour en tirer les effets bénéfiques. Et c'est vrai que c'est là la difficulté de beaucoup de nos partenaires d'avoir cette initiative en interne, cette responsabilité qui incombe aussi au manager et à toute partie prenante d'un process de recrutement de savoir comment bien recruter. Donc, hyper intéressant, et pour le coup... des tips, je pense, qui peuvent être appréciés des personnes qui nous écoutent, parce que c'est le cas de beaucoup de sociétés, ces problématiques-là.
Oui. Bon, on va aussi parler du recrutement paritaire dans la tech. Tu nous disais que recruter dans la tech est une difficulté en général. Vous n'avez jamais poussé à faire de la discrimination positive, mais vous avez quand même une règle qui est d'avoir au moins une femme dans votre shortlist pour les postes niveau senior. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir au moins un profil tech féminin dans cette shortlist? Est-ce qu'il y a un sourcing spécifique, des annonces qui sont faites sur mesure? Comment vous faites?
Oui, c'est vrai qu'on a, pas mal retravaillé. C'est un des sujets qu'on a bossé l'année dernière. La façon qu'on avait de rédiger nos annonces, on s'est beaucoup inspiré. Il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur le fait que la façon même dont on tournait le descriptif des missions ou les attentes vis-à-vis du candidat ou de la candidate avait tendance à dissuader certains de candidater et au contraire renforcer l'envie de candidater chez les autres, avec parfois des biais liés au genre. Et donc on a intégralement revu pour chacune de nos géographies la façon dont on rédige nos offres, pour s'éviter par exemple de dire qu'on cherchait la rockstar du dev back-end, et pour simplement dire qu'on recherchait un dev back-end avec tel niveau de seniorité et la connaissance de telle et telle techno particulière. Et donc, c'est vrai que l'offre, pour qu'elle soit la moins biaisée possible, il faut qu'elle soit rédigée de façon à éviter de finalement induire un comportement ou un type de profil, en tout cas pas en termes de genre, puisque ça ne peut pas être excluant. Donc c'est un peu triste mais dans la rédaction, mais c'est très très objectif, très cadré, très fondé sur les compétences le plus possible.
Ok, vous avez essayé de les tester par exemple sur vos développeuses en interne?
Eh ben déjà, en tout cas, on a eu pas mal de candidates, c'est vrai, qui ont candidaté. Donc à minima, je pense que ça a pas mal fonctionné. Et puis, je pense qu'après, au-delà de... Il y a l'étape de recueillir suffisamment de candidates dans ces process. Il y a une deuxième étape qui est que le process, lui, doit être extrêmement uniforme, quel que soit le candidat qui rentre à l'intérieur. Et ça, du coup, c'est très important. Moi, je valorise vachement que qui que soit le candidat en face de moi, s'il est à l'étape 1 du process, on va exactement gérer l'entretien de la même façon. C'est-à-dire que s'il doit avoir un ensemble de questions qui lui sont posées, ce sera les mêmes que le candidat qui suivra avant ou après lui. S'il a un business case à résoudre et à présenter un travail en amont, ce sera exactement le même que pour tous les candidats. On fonctionne beaucoup avec des groupes de questions qu'on prévoit avant les entretiens et que les personnes qui font passer les entretiens utilisent de la même façon, ce qui fait que quand on en arrive au comité d'évaluation, qui est la dernière étape de notre process avant les prises de référence, systématiquement, on peut exactement comparer les candidats pratiquement à la question près et très facilement noter et faire la différence sur des points de compétence vraiment qu'on juge, nous, très importants pour le poste. Et c'est ce qui permet de... Enfin, quand on fait ça, finalement, on est tellement sur le terrain de la compétence qu'il n'y a plus d'autres dimensions qui comptent.
Ça répond du coup à la question qui était juste après, mais hyper intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être biaisé? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire de discrimination positive? Donc, a priori, il y a une question d'objectivité et d'avoir vraiment des éléments comparatifs qui sont les mêmes pour tout le monde. Moi, j'avais une autre question. S'il n'y a pas un profil féminin dans cette shortlist, parce qu'on a des partenaires qui ont tenté justement de mettre ça en place, de dire moi je ne fais pas avancer les process tant que je n'ai pas un profil féminin en liste, mais quand on n'en a pas et qu'on a un besoin de recrutement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bloque le recrutement? Est-ce qu'on avance quand même? Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas de figure, mais si oui, comment vous avez réagi?
Alors c'est vrai que le temps, c'est une variable complexe en recrutement, parce qu'on ne peut pas dire à nos managers qu'on fait durer des process de recrutement indéfiniment. Et pour autant, souvent, c'est les quelques jours, semaines d'attente qu'on se donne en plus qui vont nous permettre de compléter la pipeline avec des profils qui seront suffisamment diversifiés. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut se servir un peu de ce temps de sourcing et bien l'utiliser avec un peu de proactivité parfois pour aller contacter des profils qu'on aurait peut-être moins spontanément contactés, mais sur lesquels on peut se réserver une surprise pour intégrer quelqu'un de plus dans un pipe. Le deuxième point, c'est qu'on a la particularité d'être annonceur également, ce qui fait qu'on participe nous-mêmes en tant qu'employeur aux événements qu'on propose à nos clients. Et dans ces événements-là, il y en a qui sont thématiques et on en fait sur les femmes dans la tech, les femmes ingénieures vis-à-vis de nos universités. Et ça nous permet à nous de prendre la parole spontanément sur le sujet et aussi de viser directement une cible de candidates sur nos postes et d'aller leur présenter nos postes. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on a la chance d'avoir une mission très universelle sur laquelle, normalement, qu'on se sente homme ou femme, on est autant attiré par le fait d'aider la nouvelle génération à s'orienter, à trouver son premier job et à faire la carrière qu'elle souhaite. Donc voilà, c'est peut-être notre mission qui nous permet de porter ça aussi.
Ça a répondu du coup à la question. Je laisse. Ah oui. C'est sûr, ouais. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Une fois qu'on a recruté ces profils-là, il y a tout un accompagnement aussi qui peut être de la responsabilité de l'entreprise, donc tout ce qui va être la partie ascension de carrière, développement des talents. C'est aussi un sujet, notamment sur la parité homme-femme, c'est-à-dire qu'il y a un sujet de recrutement, mais il y a un sujet aussi de développement des talents féminins en interne. Vous, qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour favoriser l'ascension de ces profils techniques? Et est-ce que vous avez aussi des best practices qui sont éprouvées que vous avez à nous partager?
Donc encore une fois, nous on part du principe que le meilleur moyen de se prémunir d'une discrimination quelle qu'elle soit, ça soit que nos process d'entreprise y soient robustes, toujours fondés sur des critères objectifs et les compétences. Donc comment ça se passe en pratique? Nous, il n'y a pas par exemple un seul process d'évaluation, que ce soit mon évaluation sur ma performance, mon évaluation sur ma promotion, mon évaluation de fin de période d'essai qui ne partent pas à la base d'un 360 qui est obligatoire, où on demande en général entre 5 et 8 reviews par employé pour se positionner. Ça permet déjà d'avoir une multitude de regards sur la performance de quelqu'un et d'être certain de prendre une décision qui est objective et fondée sur des retours explicites. Une fois qu'on a dit ça, tous nos process se déroulent comme ça et ce qu'on fait, c'est qu'on se mesure pas mal. Par exemple, quand on fait une campagne d'augmentation, hyper important, nous, on a pas mal d'indicateurs qu'on suit. On va systématiquement regarder que pendant la campagne, en termes d'équilibre entre les hommes et les femmes, donc pourcentage d'augmentation moyenne, pourcentage de promotion, pourcentage de l'enveloppe attribuée à une catégorie, on est... Je dirais pas égaux, parce que c'est compliqué d'être égaux, mais on est dans des proportions qui semblent complètement équitables. De la même façon, on peut faire les mêmes prises de data entre seniors et plus juniors, entre Paris, province, et toutes ces prises d'input, on les fait. Comme ça, on sait quand on termine une revue de salaire, on a augmenté, je dirais, de façon homogène et strictement lié à la performance et au développement et pas sur que d'autres facteurs n'ont pas pesé. Et ça, pour aller jusqu'au bout, comme beaucoup d'entreprises, on le présente de façon transparente à nos élus, qui constituent un peu un contre-pouvoir de ce qu'on fait. Le fait de se mesurer, c'est aussi important. Déjà, la loi nous y oblige. On a un index égalité pro qui est vachement... qui a le mérite, au-delà de simplement calculer une note pour l'entreprise, de nous alerter sur 5 dimensions, puisqu'on se mesure sur 5 critères, et de nous dire, OK, pourquoi est-ce qu'en fait, mon entreprise, elle n'est pas à 100%? Ben, mon entreprise, elle n'est pas à 100% parce que j'ai perdu 5 points sur telle dimension. OK, et donc on creuse. Et pourquoi j'ai perdu 5 points sur telle dimension? OK, parfois ça peut s'expliquer par l'histoire d'une année et parfois il n'y a pas forcément de cause. Donc nous, on est à 95 sur 100 cette année. On est hyper contents. Ça fait 3 années de suite qu'on augmente. Par contre, ça a beau être un bon score, la seule question qu'on s'est posée, on se l'est posée avec nos élus ce matin, c'était pourquoi on n'est pas à 100 déjà? Qu'est-ce qui nous a fait perdre 5 points de l'index? Et finalement, c'est sur ça qu'on va bosser l'année prochaine. Et le troisième point, en fait, sur la data... Par exemple, appliqué au salaire, ça veut dire que nous, sur les salaires, on a un process qui est vraiment assez robuste dans lequel il n'y a pas une proposition salariale faite à l'externe, mais pareil en mobilité interne, qui ne soit pas fondée sur une analyse de la situation de la personne, un benchmark externe, un nuage de points interne, et on s'adosse aussi à des grilles de REM. Et une fois qu'on a ces 4 paramètres en tête, logiquement, la proposition qu'on fait... Déjà, elle nous a permis de vérifier que l'équité interne était respectée. Et puis, elle nous permet d'être assez robuste et d'être sûr que ce n'est pas finalement le pouvoir de négociation du candidat qui a joué. On sait que souvent, ça influence plutôt positivement les hommes que les femmes, ce type de discussion. Mais que c'est juste uniquement la vraie recherche du bon positionnement marché qu'on a cherché à trouver.
Ok. Hyper intéressant. C'est structuré, quoi. Pour le coup, c'est un gros travail derrière pour mettre en place tout ça. Puis là, on a aussi peut-être une question de formation des managers au même titre que sur le recrutement. Même à l'interne, sur le développement des talents, les managers doivent être formés à toutes ces analyses-là, quoi.
Ouais, bah, c'est un très bon point. On vient de former, là, nous, en ces 4 derniers mois, on a fait une formation politique salariale et on vient de former plus de 85 personnes en 2-3 mois, juste avant de commencer nos revues de salaire qui démarrent la semaine prochaine.
Ok.
Je vais poursuivre en parlant de l'étude de Sista auquel tu as participé, qui s'appelle « Favoriser la parité en entreprise ». Peux-tu nous en parler et nous dire comment tu y as participé?
Oui, en fait, j'ai été contactée par Little Big Connection, qui était partenaire du projet avec Sista et qui souhaitait faire appel à des entreprises qui avaient la particularité d'avoir, au sein de leur comité de direction, plutôt une bonne représentation de l'équilibre homme-femme, ce qui est notre cas parce que sur les fonctions au niveau du comité exécutif, on est, nous, sur les fonctions marketing, produits RH, femmes, et on est sur finance, sales et tech, hommes. Et donc, du coup, on a un bon niveau de parité sur notre COMEX. Donc, c'est comme ça qu'on a été en contact et on a tout de suite trouvé cet angle d'attaque justement qui tourne autour de la data, parce que nous, c'est un point auquel on croit vraiment, c'est que il n'y a qu'en se mesurant qu'on se rend compte des écarts et qu'on en fait un sujet de travail pour les résoudre et qu'en faisant comme ça par itération, ben on devient justement très robuste au biais, au risque éventuel de discrimination, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a voulu s'intégrer à ces réflexions en toute humilité parce qu'on n'est pas parfait sur toutes les dimensions et aussi avec un souhait d'apprendre parce que ce que font d'autres entreprises, c'est aussi très inspirant pour ce qu'on peut mettre en place chez soi.
Eh bien, du coup, je pense qu'on a fait le tour de la question sur les bonnes pratiques que vous avez mises en place. Ce qu'il faut retenir, je pense que c'est une partie data qui est finalement hyper intéressante pour avoir cette objectivité dans une recherche de toujours faire mieux, parce qu'a priori, on peut toujours faire mieux, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place chez Jobteaser et qui sont assez avancés parce que pour le coup, encore une fois, en tant que cabinet, on a beaucoup d'interlocuteurs et qui ne sont pas tous matures comme ça sur la question. Donc, merci beaucoup pour tout simplement toutes tes explications. Darcy, je te laisse peut-être les derniers mots de la fin. Ouais.
Ouais. Alors, avant le mot de la fin, ma partie préférée, c'est le pitch. Peux-tu me pitcher Jobteaser et nous dire pourquoi vous rejoindre?
Je dirais que la première raison pour rejoindre Jobteaser, c'est vraiment notre mission. On est convaincus, on a un groupe de collaborateurs convaincus que c'est hyper important d'aider les jeunes après des années Covid difficiles, dans un parcours d'orientation qui n'est pas toujours hyper facile, à trouver un job qui les fasse vibrer et puis à s'embarquer dans une carrière dans laquelle ils vont vachement se développer. On est du coup hyper fiers de cette mission parce que c'est quelque chose de très axé vers le futur. Et donc, c'est quelque chose qui nous anime à tous. Et pour réaliser cette mission, on a la chance d'avoir des ribambelles de métiers hyper, hyper intéressants. Mmh. Et le tout, à nouveau, peut-être parce qu'on est une entreprise dans le scope RH, avec des fondateurs qui portent une culture d'entreprise et des valeurs qui sont vraiment au top en termes de respect. Et on a aussi des valeurs très, très simples et fondées sur l'humilité, le travail en collectif. Et c'est, je pense, un environnement de travail qui est, qui fait envie. En général, nos collaborateurs sont plutôt contents de rester chez nous.
Parfait. Merci beaucoup, Anne. Et merci, Camille.
Ben, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Raise.
Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous suivre, à partager et surtout, laissez votre avis sur notre podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de Raise.